Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Nous, on va certainement passer un excellent 60 minutes, puisque ce soir, j'ai le conférencier Éric Boisjoli qui est avec moi pour les prochaines minutes d'ordinaire à exceptionnel. Salut, mon ami.
Salut, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Très content de te rencontrer pour une première fois. On m'avait parlé de toi par le passé, puis on m'avait dit, Éric Boisjoli, il faut que tu le reçoives à ton émission. C'est des auditeurs. C'est des suggestions d'auditeurs que j'avais eues, en fait. J'avais fait un appel à tous sur les réseaux sociaux, puis ton nom était sorti. Fait que j'imagine que tu as marqué la vie de certaines personnes. Comment t'en es venu à être conférencier, Éric? Parle-moi de ton parcours.
Oui, ben écoute, ça a été un pur hasard, en fait. Moi, je viens... j'ai eu un talent pour le baseball quand j'étais jeune. Je suis né avec un beau talent. Mon père m'a amené à aimer le baseball et tout ça. Et puis, durant toute mon enfance, j'ai eu du succès. J'ai joué dans les équipes canadiennes. J'ai été repêché par l'équipe professionnelle, les Dodgers de Los Angeles et tout ça. Mais... rendu à 19-20 ans, j'ai tout saboté.
Attends un peu, t'as été repêché par les Dodgers de Los Angeles?
Oui, en 94.
Oh boy, puis ça, c'était le rêve de ta vie, j'imagine.
Oui, effectivement, toute ma jeunesse, j'avais joué, j'avais suivi les Expos, j'étais un fan fini des Expos. Et puis, moi, j'ai grandi dans les années 80 quand les Expos étaient à leur plus haut. Là.
Ben oui.
Tim Raines, Gary Carter, André Dawson, tous ces gars-là. Fait que j'adorais le baseball. Je trippais solide, puis j'avais un beau talent. Puis de fil en aiguille, comme je te disais, j'ai été repêché par les Dodgers.
Tu étais à quelle position? Tu évoluais à quel endroit?
À l'arrêt court.
À l'arrêt court. Ça, c'est entre le premier puis le deuxième ou entre le deuxième et le troisième?
Entre le deux et le trois.
C'est-tu toi qui avais le plus de balles ou c'est celui-là qui est entre
eux? Ouais, l'arrêt court, puis... habituellement, tu sais, je le dis avec toute humilité, là, c'est le meilleur athlète de l'équipe.
Ouais. Puis la balle arrive vite en tabarouette. Tu sais, quand on voit des incidents au baseball majeur où le lanceur fait sa motion, puis le frappeur la frappe, ça s'en va très près du lanceur. Je me dis tout le temps, à un moment donné, il y a un drame qui va arriver. Puis des fois, les lanceurs ont tellement un bon réflexe qu'ils réussissent à reprendre la balle alors qu'elle arrive, je ne sais pas trop à quelle vitesse, c'est quoi, 200-300 km/h?
Oui, ben pas loin de 115-120 000 à l'heure. C'est quand même... ça vient vite. Il y a quelques lanceurs qui ont reçu des balles sur la tête, des trucs comme ça, mais... Mais c'est ça, on espère que ça arrive le moins possible.
Puis à l'arrêt court, ben, c'est toi qui dois sauter le plus loin pour réussir à capter les balles.
Oui, j'étais rapide, j'étais un petit vite, comme on dit. Là.
OK. Puis là, t'as fait ça, t'as commencé à quel âge le baseball?
Ouais, écoute, mon père m'a initié à l'âge de 3-4 ans. Je jouais dans la rue avec les amis. C'est un fait cocasse parce que j'avais 4-5 ans, puis sur ma rue, il y avait des enfants de 9-10 ans, puis ils ne voulaient jamais me laisser jouer. J'étais trop jeune, puis à un moment donné, mon père s'est fâché, puis il a dit, là, il a dit à ma mère en dedans, là, je m'en vais dehors, puis je vais aller leur dire de faire jouer Eric. Puis là, les enfants étaient, ben, Monsieur Boisjoli, il est trop petit, il ne sera pas capable. Puis ils ont forcé, puis quand j'ai embarqué, j'étais meilleur que tous eux autres. Puis à la fin, ils se disputaient pour que je sois dans leur équipe. Même si j'étais 3, 4, 5 ans plus jeune. Fait que, tu sais, j'ai toujours aimé ça. J'avais un talent naturel.
Exact. Fait que là, tu as pratiqué le baseball pendant 15 ans comme amateur, puis à un moment donné, ben, est arrivé le fameux repêchage des ligues majeures. Pouf! T'es choisi. Ouais. T'es choisi, je sais pas trop comment ça fonctionne le foot, je sais comment fonctionne le hockey, mais au combienième rang, à quel...
J'ai quand même été choisi loin, étant un Québécois, à cette époque-là, c'était pas encore super populaire et tout ça, fait que j'ai été quand même choisi loin, puis ce qui est arrivé, c'est que l'organisation des Dodgers m'ont dit, si tu veux progresser, il faut que tu sortes du Québec, puis il faut que tu ailles jouer aux États-Unis. Fait qu'ils m'ont trouvé une place pour aller évoluer en Oklahoma. À cette époque-là, j'avais 18 ans. C'est quoi l'Oklahoma? C'est où? Ça mange pas en hiver? Je parlais pas anglais.
Ouais.
Fait que je suis parti avec Éric Gagné. Éric Gagné, plusieurs le connaissent, ceux qui suivent le baseball. Il a joué dans les ligues majeures pendant longtemps.
Game over.
Game over, exactement. Ben, en fait, le chapitre 4 dans son livre, on fait mention de notre séjour en Oklahoma ensemble. Donc, c'est ça. Je suis parti en Oklahoma. Puis, c'est là que... Puis c'est ce qui a mené à mon cheminement, en fait. C'est là que j'ai développé des patterns un peu d'auto-sabotage, qu'on appelle. C'est-à-dire que tu agis à l'encontre de ton bien. Parce que tu as des patterns au niveau de ton cerveau, tu as des mauvaises habitudes et tout ça. Puis j'avais développé ça parce que mon père, c'était un super bon père, mais il était alcoolique. Il n'était pas présent pour moi émotionnellement. Fait que j'ai eu des carences quand j'étais plus jeune. Puis là, j'ai commencé j'avais un syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je croyais pas en moi. Okay. Même si j'avais plein de succès, les gens me disaient, t'es super bon, Eric, waouh. Moi, à l'intérieur de moi, je comprenais pas pourquoi les gens me donnaient autant d'attention, pourquoi les gens me trouvaient bon.
Parce que le syndrome de l'imposteur, Eric, je pense que, tu sais, c'est drôle, ça fait deux fois que je parle de ça cette semaine, mais je parlais avec Pierre-Yves Laure, qui est un animateur de télé, animateur de radio aussi, qui a commencé sa carrière à Québec, puis il me disait, après 20 ans de carrière, il me disait, tu sais, Yann, encore à ce jour, j'ai le syndrome de l'imposteur. Puis je m'étais mis dans la tête que tout le monde avait ce petit syndrome-là, tu sais, même Connor McDavid, qui est un joueur exceptionnel, doit se dire... Tu sais, pourquoi je mérite toute cette attention-là? Est-ce que le syndrome de l'imposteur, on réussit à l'estomper avec le temps?
Oui, bien en fait, oui, parce que quand j'ai commencé ce que je fais comme métier, j'avais le syndrome de l'imposteur fois mille parce que j'étais, je suis qui moi pour aider les gens? Je suis qui moi pour donner des conseils?
Ouais.
Mais avec le temps, j'ai gagné en confiance, j'ai gagné en solidité à l'intérieur de moi, puis j'associe plus ma valeur à l'opinion des autres. C'est-à-dire que quand on associe notre valeur à l'opinion des autres, c'est là que ça devient plus difficile. Fait que les autres nous critiquent, nous trouvent pas bons, oups, ça vient nous affecter. Les autres nous trouvent bons, oups, ça remonte notre estime. Quand tu es capable de te dissocier de ce que les autres pensent par rapport à toi, là, c'est là qu'il y a une seule opinion qui compte, c'est la tienne.
Okay.
Fait que quand tu es capable de développer ça, ben à ce moment-là, t'as plus l'impression de ne pas être à ta place. Tu le sais que tu es à ta place.
Okay. Ah, c'est intéressant. J'ai lu une phrase sur Internet il y a de ça quelques temps. C'était « Dans la nature, le loup se fout éperdument de ce que le mouton pense. Il le mange.
» Bon, il irait peut-être pas jusqu'à le manger. Mais,
non, mais... je te le souhaite. Mais à 18-19 ans, tu savais déjà à ce moment-là qu'il y avait quelque chose en toi.
Il y avait quelque chose qui clochait. Puis je me voyais pas jouer dans les ligues majeures. Même si c'était mon rêve, je me voyais. Puis souvent, j'allais voir les expos. Puis je me rappelle encore aujourd'hui, je m'assoyais dans les estrades, j'avais 19-20 ans. Puis je me semble que je n'ai pas ce qu'il faut pour aller là, comme, pour être ces gars-là. C'est très fort le subconscient. Tu sais, puis à cette époque-là, je ne le savais pas, mais j'avais cette croyance-là que je ne me voyais pas être sur le terrain avec ces gars-là.
OK.
Fait que quand tu as des croyances comme ça, inconsciemment, tu vas agir pour t'auto-saboter.
Ça, c'est des croyances qu'on peut... Est-ce qu'on peut dire que c'est des croyances limitantes?
Exactement. Exactement. Puis on développe ça dans l'enfance. Puis après ça, on perpétue ça à travers notre vie.
Puis est-ce qu'on sait pourquoi on développe ce genre de croyances limitantes-là dans l'enfance?
Oui, mais en fait, c'est entre 0 et 7 ans qu'on développe toutes nos croyances, toute notre personnalité, tous nos trucs. Donc, par rapport à l'environnement dans lequel on grandit.
Ouais.
Puis après ça, on fait juste reperpétuer ça, solidifier ça jusqu'à temps qu'on réalise à l'âge adulte que ben crime, c'est pas de même que je veux vivre. Fait que là, il faut aller travailler sur soi, éliminer ces croyances-là, en créer des nouvelles. Mais moi, c'est ça. À cette époque-là, le manque d'amour que j'ai eu de mon père, ma mère qui était dépendante affective, tout ça, j'ai développé ce syndrome-là, puis je croyais pas en moi.
Mais Éric Boisjoli, c'est cruel ce que j'entends, parce que moi, je suis père de deux jeunes garçons, puis j'essaye le plus possible d'être le meilleur père du monde, et tu sais quoi, probablement qu'à certains endroits, je peux errer, mais de voir que je peux avoir un impact, comme ton père a pu avoir un impact sur ta vie, qui au départ a été un peu négatif parce que tu avais certains manques, ça me stresse, moi, de savoir, j'ai-tu bien agi avec mes gars, je leur ai-tu donné toute l'attention que j'aurais dû leur donner, tu sais, c'est cruel quand j'entends ça parce que, tu sais, à 18 ans, moi, je veux que mes gars soient pleins de confiance. Je veux qu'ils réalisent leurs rêves. Puis, s'il y en a un qui veut être policier, l'autre qui veut être voleur, c'est normal, c'est deux frères. Mais, tu sais, si mon jeune qui est à l'académie de police regarde les policiers qui font des interventions, puis ils se disent, il semble que je ne serais jamais à la hauteur de ces policiers-là, je le prendrais personnel. Je le prendrais vraiment personnel.
On a une influence énorme sur nos enfants parce qu'ils nous modélisent. Puis, tu sais, moi, mon plus vieux, il a 17 ans aujourd'hui, il va avoir 17 ans le mois prochain. Puis à 12 ans, tu sais, j'ai frappé un mur il y a 5, 6, 7 ans. Là, c'est là qu'est parti mon intérêt pour travailler sur moi. Puis mon gars, il avait 12 ans, puis il avait un super beau talent pour le baseball, mais il stagnait, il tournait en rond, il n'avait pas les meilleures influences, il allait se tenir à l'aréna, il vapotait. C'est vraiment là, puis moi, à cette époque-là, je tournais en rond. Puis, tu sais, des fois, je me fâchais après, puis je disais, là, réveille-toi. Puis la minute que j'ai commencé à travailler sur moi, que j'ai commencé à avoir des projets, à avoir des objectifs, à voir grand, lui, il a fait la même chose sans que j'aie rien à y dire.
Intéressant, ça.
Puis aujourd'hui, il est en Floride, il vit là-bas, il poursuit son rêve de jouer au baseball lui aussi. Il est autonome, il va à l'école en ligne, il fait ce qu'il a à faire. Mais j'aurais eu beau y taper dessus quand, tu sais, il allait réveille-toi, puis let's go, puis ça change rien. On est le modèle, nos enfants nous modélisent.
Ouais.
En fait, tout le monde, tu deviens une influence positive pour tout le monde quand tu deviens solide toi-même.
Ça devait être difficile pour toi à 18-19 ans d'évoluer dans un calibre de baseball qui était un haut calibre, puis d'aller voir des matchs de baseball majeur, puis de te dire, hey, j'aurais jamais ce que ces gars-là ont. T'avais pas l'impression que ton rêve s'écroulait à chaque jour quand tu avais ces pensées-là?
C'est difficile à dire, c'est dans l'inconscience. Je faisais juste le sentir, mais je ne pensais pas à ça. Parce que je travaillais quand même fort pour atteindre mon objectif, mais c'est comme si je travaillais à contre-courant. Mon conscient voulait réussir, mais je n'étais pas programmé comme ça. Mon subconscient ne suivait pas. Fait qu'il y a comme deux parties à notre cerveau. La partie consciente, c'est la partie des désirs. On désire des choses, mais la partie subconsciente, qui est tes programmes, qui est en fait comment tu es constitué. Fait que tu sais, il y a des gens qui veulent l'amour, 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 ils le désirent, mais ils sont pas programmés pour ça parce qu'ils ne croient pas être dignes d'être aimés ou peu importe, dans toutes les sphères de notre vie, c'est l'abondance financière, tout, tout, tout. Fait que c'est ça. Fait que je pensais pas tellement à ça à cette époque-là, mais je me rappelle vividement aujourd'hui, j'étais comme non, il me semble, j'ai pas ce qu'il faut.
Okay. Puis est-ce que c'est toi qui as pris la décision que tu ne continuais pas au baseball ou le baseball s'est rendu compte que tu n'avais peut-être pas la tête au baseball?
Non, c'est ben en fait je me suis saboté parce que quand je suis arrivé, j'ai été recruté pour jouer dans une université américaine, une très très bonne université américaine à l'âge de 20 ans. Quand je suis arrivé là à l'automne, ça a été ma meilleure période à vie. J'avais 20 ans, je viens d'arriver dans une grosse université au Texas, j'ai dominé complètement. J'étais le meilleur joueur de l'équipe. Et puis là, s'en est suivi une blessure, puis j'ai comme perdu intérêt. J'ai comme perdu le goût. Puis là, je ne prenais pas les pilules que j'avais à prendre pour guérir mon malaise. Puis un an plus tard, je ne jouais même plus au baseball. J'étais passé d'un top prospect à l'automne 96. J'avais 20 ans. On me voyait vraiment gros à même plus jouer au baseball un an plus tard. Puis aucune raison. J'avais juste écroulé sous la pression. On peut appeler ça de même. On peut l'appeler comme on veut, là.
Ouais.
C'est juste que je croyais pas. J'étais pas programmé pour avoir un grand succès là-dedans, là.
OK. Est-ce que, puis tu me pardonneras mon vocabulaire, mais on est à la radio de Québec, donc on a tous les droits. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui avait le goût de te botter le cul? Quelqu'un qui avait peut-être un talent beaucoup moindre que le tien, qui aurait aimé justement accéder aux grandes ligues puis d'être repêché, qui t'a dit, là, Éric Boisjoli, là, regarde où t'es rendu, là, c'est pas le temps dans ta tête de dire que c'est peut-être pas ça. Vas-y, fonce. Y avait-tu quelqu'un qui voulait te botter le cul, qui disait sacrament, vas-y?
Malheureusement, j'adore mes parents, mais ils sont décédés aujourd'hui, mais je les ai adorés, tout ça. Mais mon père, il n'avait pas le mindset. Mon père était plus victime. Tu sais, un alcoolique, c'est jamais de sa faute. Puis ma mère était moins impliquée dans le baseball, mais j'ai pas eu le support de mon père à travers tout ça. Fait que j'étais un peu laissé à moi-même, puis c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai abandonné aussi. J'avais pas. J'avais, tu sais, j'étais tout seul aux États-Unis. Mon père n'était pas vraiment présent pour moi. Fait que j'étais comme un peu tout seul là-dedans, puis c'est ce que j'essaie de donner à mon garçon, c'est du support, puis de l'encourager et tout
Ouais.
ça, chose que j'ai pas eu.
Puis là, t'avais 20 ans, fait que t'avais pas nécessairement une grosse expérience de vie, mais t'as-tu considéré ça comme un gros échec?
À l'époque, j'étais, ouais, quand même, mais tu sais, à 20 ans, t'es jeune, t'es naïf, puis ah, c'est pas grave, tu sais, j'avais eu beaucoup de succès, j'avais joué dans les équipes canadiennes, j'avais été nommé meilleur arrêt-court au Canada, j'avais été repêché, tu sais. Je trouvais que j'avais fait des belles choses, mais quand tu crois pas à quelque chose, c'était comme un espèce de OK, c'est arrivé. Mais plusieurs années plus tard, j'ai eu des regrets de ne pas avoir été au maximum de ce que j'aurais pu aller. Tu sais, je dis pas que j'aurais joué dans les ligues majeures, là, mais tu sais, j'avais quand même un beau talent pour me rendre là. Mais tu sais, je peux pas affirmer que j'ai tout donné pour réussir puis que j'ai pas réussi parce que j'ai pas tout donné, là.
Ouais, puis
J'aurais pu de.
c'était comment? Puis je vais t'expliquer ma question. J'ai rencontré quelqu'un qui a une solide carrière. Je peux pas nécessairement trop l'identifier, mais il était tout le temps sous les projecteurs. Puis à un moment donné, pour des raisons X, là, les projecteurs se sont éteints. Puis il n'y a plus personne qui l'appelait. C'était rendu persona non grata. Puis il m'a dit, tu sais, Yann, passer de héros à zéro, là, c'est extrêmement cruel. Parce que quand tu es héros, tu te rends pas compte à quel point ça va bien tes affaires, tu es apprécié, tu as des amis, puis l'argent rentre, puis tu manques de rien, puis tu sais, si tu es célibataire, ben il y a des gens qui s'intéressent à toi parce que ben, tu es un personnage intéressant, puis en plus tout le monde te connaît, tout ça. Puis il a fait des erreurs à mes yeux, à moi, qui sont majeures. Puis ça a fait en sorte que c'est fini, c'est terminé. Toi, tu jouais au baseball, tu étais le dieu du stade dans ton équipe, ça allait super bien. Du jour au lendemain, blessure. Quelques temps plus tard, tu joues même plus au baseball. Ça a dû être une chute vertigineuse parce que lui, encore aujourd'hui, 2024, ça fait déjà quelques années, 2024, il n'en est toujours pas revenu. Puis malheureusement, à l'âge qu'il a, il ne sera pas capable de revenir sous les projecteurs. Comment tu te sentais dans ce laps de temps-là où tu es passé du gars qui était en dessous des projecteurs versus le gars qui est au restaurant puis personne ne le connaît finalement?
Mais en fait, moi, ça a été différent parce que j'aimais pas les projecteurs. Je me sentais pas digne d'être là. Fait que je fuyais les projecteurs. Puis je vais me rappeler toute ma vie, je sais pas à quel âge, mais en 94, quand j'ai été repêché par les Dodgers de Los Angeles, Tom Lapointe, assez cassé, m'avait appelé pour faire une entrevue.
Qui était une méga star à l'époque, là.
Ouais. Puis honnêtement, toute la journée, il m'avait dit, à soir, je vais t'appeler vers 9h15 pendant les amateurs de sport, puis tout ça. Puis là, toute la journée, j'avais fait de l'anxiété. Puis rendu à 9h15, téléphone sonne, j'ai jamais répondu. J'étais pas capable. Je trouvais que j'avais pas rapport à la radio.
Okay.
Puis je venais d'être repêché par les Dodgers de Los Angeles. Là. Fait que, tu sais, tout ça faisait que. Tu vois, j'avais pas ce qu'il fallait. Puis je le dis souvent, j'avais pas ce qu'il fallait. J'avais pas le toughness pour passer au travers ça.
Puis l'anxiété, c'était quelque chose que tu faisais régulièrement?
Non, c'était juste... Quand, mettons, avant de parler en avant de la classe, à l'école, ouais. des trucs comme ça.
C'était une anxiété normale. Parce que, tu sais, avec un père qui est alcoolique, je me suis dit, ben peut-être que le père, son médicament, c'était sa bouteille, tu sais, quand il était trop nerveux, quand il était trop anxieux. Tu sais, aujourd'hui, il y a des médicaments qui fonctionnent super bien, mais dans le temps, c'était la bouteille qui faisait en sorte qu'on soignait un peu notre anxiété avec ça, tu sais. Fait que j'essayais c'est peut-être un lien avec ça, son anxiété.
Mais tu viens les mains moites, t'es nerveux, tu sens que t'as pas rapport. Écoute, j'ai même pas répondu au téléphone. Puis là, Tom Lapointe, je me rappelle encore comme si t'étais ailleurs. OK, on a des problèmes, Éric Boisjoli est absent. En tout cas, whatever. Là, puis... mais c'est ça, je croyais pas être digne de mériter ça.
OK.
Puis, fait que j'ai tout saboté, j'ai détruit ma carrière, j'ai pris des mauvaises décisions. Tu sais, à un moment donné, il y avait un dépisteur des Devil Rays de Tampa Bay qui m'avait approché. Puis j'avais dit, je suis pas sûr, je pense. Tu sais, alors que j'aurais dû foncer, j'aurais dit « let's go, on y va, là ».
Ouais. Puis un an plus tard, tu jouais même plus au baseball. Qu'est-ce que t'as fait? Tu te cherchais-tu? Est-ce que tu disais « ben là, je vais étudier, je vais aller dans tel domaine ». C'est quoi mes buts? T'sais, parce que ton objectif, c'était vraiment la MLB, Ligue majeure baseball. Ton objectif, c'était ça. Puis là, du jour au lendemain, pouf, ton objectif part. Puis là, ben c'est le monde entier, sauf les ligues majeures.
Mais je me suis cherché un bon bout de temps.
Ah oui, c'est sûr.
Ça a terminé en 98. Je te dirais que là, les 5 années d'après, là, j'ai été croupier au casino. Je travaillais dans une compagnie de comme représentant pour des logiciels de schéma électrique. T'sais, je me suis promené un peu partout. Puis je te dirais que j'ai tout le temps eu une drive, par exemple, pour débuter quelque chose. T'sais, quand j'avais ma carrière au début, quand j'étais jeune au baseball, j'ai tout donné pour avancer. Puis là, en 2003... Je me suis comme réveillé encore. J'ai de la drive. Puis là, je voulais aller comme avoir du succès dans ma vie. Avoir une bonne job. Puis là, vraiment me propulser au niveau de ma carrière. Puis je l'ai fait. Fait qu'en 2003, à 26 ans, je suis devenu représentant dans une compagnie qui vendait des produits de bureau. Pendant 5 ans, j'ai été représentant de l'année. J'ai eu directeur des ventes. J'ai monté. Après ça, en 2007, je suis allé dans le pharma.
Pharmaceutique. Ouais. C'est ce que j'avais lu, là.
Ouais. Oui, puis là, j'ai gagné rep de l'année 3 fois sur 5.
Ça, c'était payant, ça.
Oui, ça, c'était cool. fait que ça a bien été. Puis en 2012, j'ai répété le même pattern de détruire ce que j'avais bâti.
OK.
Fait que j'ai détruit ma carrière de baseball avec des mauvaises décisions, une mauvaise attitude. Puis là, en 2012, je m'étais bâti une belle carrière, j'avais une belle famille, j'avais tout ce que je pouvais avoir, tout ce que la société dit qu'on doit avoir, j'avais tout ça. Puis j'étais pas bien pareil. Puis là, j'ai commencé à avoir des comportements. T'sais, je sortais plus, je travaillais moins, je m'occupais moins de mon gars. À l'époque, j'en avais un. Puis j'ai tout détruit. Puis c'est là que j'ai tourné en rond une spirale infernale de 2012 à 2018. Je me suis fait congédier 5 fois en 5 ans. Je me prenais de relation inutile en relation inutile. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis c'est là que j'ai eu le wake-up call de travailler sur moi. De dire, à un moment donné, là, c'est comme, tu peux pas continuer de même. Là. Tu t'en vas dans un trou direct.
Ce comportement d'autodestruction-là, tu sais, moi, je l'ai entendu, mettons, dans l'univers des artistes au Québec. Là, c'est arrivé quelques fois où je l'ai entendu. Mettons, j'ai entendu Joël Legend en parler. Il disait, tu sais, moi, j'avais la plus belle des vies, j'avais la plus belle des carrières, puis à un moment donné, ben, je faisais des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Puis on se souvient de ce qui s'était passé dans le parc où il y a un policier qui l'a pogné en train de se taponner. Tu sais. Puis lui, il considère que c'est un comportement d'autodestruction. J'ai entendu des psychologues de Wish là, sur l'affaire Guillaume le Métis Vierge dire il a fait cette affaire-là, ça n'avait pas de bon sens, mais je pense que c'est un comportement d'autodestruction. Moi, je ne sais pas si c'est ça. Honnêtement, je ne connais absolument rien en psychologie. Moi aussi, je suis un psychologue de Wish. Une fois de temps en temps, j'essaie d'expliquer certaines affaires. Mais ça, tu l'as eu 2 fois. Je veux dire, est-ce que les humains ont ça en général ou c'est certains types de personnes qui, quand ça va super bien, ont une tendance à dire... Ça va super bien, mais je scrappe tout pour repartir tel un phénix, tu sais.
Oui, non, ben c'est pas tout le monde. Ça dépend de la programmation que tu as encourue dans l'enfance. Tu sais, si les gens qui ont eu le support de leurs parents, que ça a bien été, qui ont vu des parents avoir du succès, ben, probablement qu'ils ne répètent pas ces patterns-là. Moi, j'ai vu mon père se faire congédier à plusieurs reprises. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que j'ai grandi à 10 ans. Je le voyais stressé, je le voyais, tu sais, aller dans un bar l'après-midi, pas travailler. Puis moi, c'était le golf. J'allais jouer au golf à tous les jours. J'allais plus faire mes calls de représentant. Puis à un moment donné, évidemment, je me suis fait prendre. Puis là, je me suis fait congédier. Puis là, après ça, j'ai eu des problèmes d'attitude par rapport à... Tu sais, je voulais pas me faire dire quoi faire. Puis, fait que tu sais, c'est tout ça des comportements destructeurs qui, en fait, agit de façon inconsciente à l'encontre de ton bien-être. Puis tu t'en rends pas compte. Okay.
Mais est-ce que tu étais conscient, tu sais, dans les 2 fois où tu as mis une fin abrupte à ta carrière, est-ce que tu étais conscient de tout le bonheur qui t'entourait, de la chance que tu avais d'être là, même si toi, tu disais, ben, dans ton fort intérieur, Éric Boisjoli, tu te sens pas assez capable de monter à un stade supérieur. Bon, la première fois, c'était pour les ligues majeures. La deuxième fois, c'était dans l'entreprise où tu évoluais, où tu performais. À un moment donné, tu te ramassais au golf. J'imagine que tu t'es amélioré au golf pendant ces mois-là, fait que t'as pas tout perdu. Mais tu t'es fait prendre, tu t'es fait sacré dehors. Mais est-ce que c'est là que tu prends conscience que finalement tu avais une crise de bel job, ça allait bien et tu aurais dû rester là? Ou tu te dis,
non.
Ben, ça s'appelle la vie. C'est un lundi, puis mardi, ben, il y a un autre jour qui va arriver. Moi, j'ai des chums qui perdent régulièrement leur emploi. Là. Bon, c'est pas tout des tout croches, là, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est un choix qu'eux prennent, mais c'est aux 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai tout le temps gardé mes jobs longtemps. J'ai jamais eu la chance, puis là, mes chums, ils vont rire s'ils entendent notre discussion entre moi et toi, mais j'ai jamais eu la chance de ressentir ce que ressent une personne qui s'est faite congédier. Tu sais, ça m'est jamais arrivé. J'ai tout le temps été, je sais pas si c'est chanceux ou si j'ai tout le temps un comportement, non, je pense que j'ai des problèmes de comportement aussi, mais je sais pas si j'ai tout le temps été chanceux, mais je ne sais pas ce que c'est que de me ramasser devant rien. Puis je vais t'avouer que des fois, quand j'entends des histoires, parce que, bon, là, on entend tes tragédies, mais il y a une histoire inspirante au travers de ça. Je vais t'avouer que des fois, je me dis, mais peut-être que si j'avais ce genre d'étape-là, mais je pourrais être, même si je suis très heureux, je pourrais être encore plus heureux, tu sais. Fait qu'à vie à mes boss, sacrez-moi dehors, je vais peut-être devenir quelque chose d'autre, qui sait. Mais oui, tu sais, la finalité quand tu perds ton emploi, parce que les gens qui nous écoutent dans leur véhicule ou ben les gens qui réécoutent le podcast, tu sais, ça leur est arrivé, ben ça t'amène vers un autre chemin qui peut parfois être plus positif, c'est même à travers tout le négatif, puis ça a été ton cas, toi. Tu sais, pendant de longues années, tu as erré, puis là, ben après 5 ans, 6 ans, tu as décidé, non, c'est pas vrai que ça va être ça le restant de ma vie. Je vais me rebâtir, puis là, ça va être pour de bon.
Exact. Ben, en fait, c'était les éléments déclencheurs qui ont fait que j'ai commencé à travailler sur moi, parce qu'effectivement, c'était pas cool. Puis, tu sais, en 2016, quand je me suis fait congédier, comme pour la 4e fois, là, parce que là, moi, dans le domaine de représentation pharmaceutique, tu fais affaire avec des agences de placement. Là, je commençais à patiner en tabarouette quand j'allais les voir. Là, ben excuse-moi, pourquoi ça fait 4 fois en 4 ans que tu te fais congédier? Tu peux pas parler de tes patterns et du subconscient, là, ça passe pas. Là,
tu parce disais-tu que la vérité? Tu disais pas la vérité? Tu mentais?
Non, je pouvais pas dire la vérité parce que jamais on m'aurait replacé. Là. Fait que, puis ça, c'est un pattern que, tu sais, à un moment donné, je mentais partout. Je mentais à mes collègues parce que je m'allais jouer au golf puis j'allais pas un meeting. Je mentais sur mon CV pour me retrouver un autre job. Je mentais à ma conjointe de l'époque pour sortir. Puis ma vie s'était rendue ça. Puis ben, mon père, devine quoi, ben, il avait trompé ma mère toute sa vie. Il mentait, il buvait. Je répétais le pattern. C'est l'environnement dans lequel j'avais grandi, puis je répétais ça dans ma vie. Puis c'est heureusement, honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un wake-up call parce que j'aurais pu continuer de même toute ma vie. Mon père a continué de même toute sa vie. Mais j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel en 2016. J'allais tellement pas bien, je commençais à aller sur YouTube, puis je voyais des vidéos qui me faisaient du bien, mais je ne savais pas trop c'était quoi. T'sais, moi, le développement personnel, j'avais aucune idée c'était quoi. Mais ça me faisait du bien écouter ça.
Oui, ça fait du bien. Ouais. J'ai juste été sur ta page web tantôt, Éric Boisjoli, conférencier. Je lisais un peu sur ton parcours. Ça me faisait du bien de voir que les gens se reprennent en main malgré le fait qu'il y a des rêves qui se sont éteints. Ils repartent sur d'autres choses. Puis je te voyais évoluer sur scène aussi où tu sembles avoir bien du plaisir. Moi, ça m'inspire. Quand je vais m'entraîner, puis je vais être très, très honnête avec toi, là, la dernière des affaires que je veux dans la vie, c'est m'entraîner. Mais je le fais pour des raisons esthétique, mais aussi parce que je veux être très près de mes enfants très longtemps. T'sais. J'essaie de me donner une bonne santé pour être sûr et certain que je vais être là le plus longtemps avec eux autres. Mais m'entraîner, ça ne m'inspire pas pantoute. Mais ce qui m'inspire, par exemple, c'est de mettre, exemple, de la musique hyper motivante avec un gars qui parle en arrière. Ben, souvent, c'est en anglais parce que le contenu français, il peut être bon, mais il est assez limité. Fait que j'ai un gars qui fait le même job que toi, qui m'explique en anglais de quelle façon on peut franchir les étapes avec de la musique. Puis sérieux, je m'en vais au gym, je pourrais tout détruire. Je pourrais lever des plates épouvantables. Mais au départ, juste m'entraîner, ça me tue. Fait que de lire des histoires inspirantes comme toi, puis de t'entendre ce soir avec nous autres pour dire « Hey, ça se peut que ça aille pas si bien que ça dans votre vie. Vous êtes dans un calvaire, mais sachez que si vous vous reprenez en main, c'est possible de devenir quelqu'un que vous aimeriez peut-être plus que la personne que vous aimez là actuellement. »
Totalement. On peut complètement changer. Quand on change notre façon de penser, notre mindset, il n'y a rien qu'on ne peut pas réussir. Ça, c'est scientifique, c'est un fait, là. Mais il faut changer sa façon de penser. Tout part de nos pensées, en fait.
T'avais-tu des bons chums autour de toi pendant toutes ces années d'errance-là?
Ben, je les avais un peu perdus de vue. Je te dirais, là, j'ai tout le temps été un gars, j'ai jamais été un gars de gang. J'ai tout le temps été un gars plutôt solitaire. J'ai des bons amis d'enfance que on garde contact encore, mais j'avais pas d'amis proche avec qui je pouvais parler de tout ça et tout ça. Tu sais, en gars, bon, tu sais, si j'avais dit à mon chum, je suis en train de vivre telle affaire, tu sais, moi, c'est comme, c'est le running gag, c'est quand la prochaine fois que tu vas te faire mettre dehors, là. C'était plus, mais tu sais, même moi, j'en riais à un moment donné, c'était, écoute, 5 fois en 5 ans, il faut le faire, là. Même si je voulais encore le faire, je suis pas sûr que je serais capable, là.
Ouais. Puis tes chums, c'est sûr qu'il y a, la proximité aussi, là, la même proximité qu'on peut avoir avec nos enfants quand on leur dit quelque chose, ils nous écoutent pas pendant tout, mais quand c'est le coach de hockey qui dit quelque chose, ah là, le coach dit la même affaire que mon père, mais là, c'est le coach de hockey qui dit, mais tu sais, la proximité de nos chums, il y en a-tu un qui t'a dit, mais là, Éric, t'es un fiasco sur deux pattes, qu'est-ce que tu vas faire comme conférencier? T'sais, tu vas leur apprendre à quoi? À perdre leur job? Y a-tu des gens autour de toi qui ont dit, t'es-tu fou?
Ben, j'entendais souvent dire, écoute, t'as une bonne job, qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Parce que à un moment donné, je me suis repris en main en 2017, je me suis retrouvé une job après 5 congédiements, puis là, cette job-là, je me suis comme réveillé, là, puis j'ai fait OK, là, arrête de niaiser. Mais j'avais tellement un manque de confiance. Mon boss m'appelait, j'avais peur de me faire mettre dehors, là, parce que je l'avais vécu 5 fois. Le téléphone sonnait, puis c'était lui, puis j'étais comme.
T'avais une fracture qui n'était pas guérie.
Et solide. Puis là, c'est ça, c'était suite à une relation qui m'avait fait mal. Là, j'ai commencé à aller lire, aller écouter des podcasts, aller voir tout ça. Puis honnêtement, j'ai développé une passion finie pour le développement personnel, pour le cerveau surtout, pour comprendre les comportements humains et tout ça. Là, j'écoutais de plus en plus ça, puis je me sentais bien. J'ai commencé à faire un travail sur moi. Puis à un moment donné, en 2019, j'ai comme eu le goût de faire comme les gens que j'écoutais. C'était comme un défi personnel parce que moi, j'ai jamais été capable de parler devant du monde. J'étais représentant pharmaceutique, mais moi, un à un, je vais te vendre n'importe quoi. Rajoute-moi 2-3 médecins, je fonds, je perds mes moyens. Fait que je me disais, si j'étais à de faire ça, de donner des conférences pour un peu raconter mon parcours, mais c'est là que j'avais le syndrome de l'imposteur. Je suis là, quel parcours? Ça fait 5 ans que je me fais congédier à tour de bras. J'ai des relations difficiles l'une après l'autre. Je tourne en rond, j'ai rien fait dans la vie. Mais fait que j'ai suivi un cours de conférencier en octobre 2019. Je me suis inscrit, j'ai plongé, mais ça faisait 2 ans que je travaillais sur moi quand même. J'avais travaillé mon mindset, là. Je travaillais sur moi, je commençais à bien me sentir. J'ai dit, let's go, allons prendre un cours de conférencier. Fait que de octobre 2019 à mars 2020, toutes les semaines, hey, c'était ardu, là. Puis là, des exercices de diction, puis toute la patente là, pour devenir conférencier. Puis on commençait à checker pour louer des salles. Puis là, le COVID a frappé. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, what? Give me a break. Mais là,
Je sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend, mais si tu m'entends, il faut que tu m'envoies un signal positif quelque part.
Mais je ne l'ai pas pris dur cette
Ouais.
fois-là, parce que ça faisait 2 ans que je travaillais sur moi. J'avais des notions, je devenais plus solide.
OK.
Puis là, tout de suite, ma réaction, ça a été en mars 2000. OK, là, je ne peux pas faire les conférences. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'étais vraiment tanné d'être représentant pharmaceutique. Tu sais, j'avais fait le tour, ça faisait 15 ans que je faisais ça. Puis là, c'est là que j'ai été mis en contact, où j'ai trouvé quelque chose sur Facebook à propos des formations en ligne. Comment aider les gens à travers des formations en ligne? Mais j'avais aucune idée c'était quoi, là. Puis, j'avais aucune idée. Fait que j'ai pris une formation, j'ai appris un peu c'était quoi. Puis comme je t'ai dit, j'avais travaillé sur moi. Fait que j'avais plus le mindset de fonceur. J'avais moins. Tu sais, j'étais plus là, let's go. Tu sais, j'avais appris à plonger, sauter, être dans l'action. Puis, avec tout ce que j'ai appris, j'ai commencé à bâtir une formation en ligne. J'ai commencé à me filmer. Hey, j'avais rien, j'avais un escabeau, j'avais tapé mon iPhone sur l'escabeau, puis là, je me filmais, puis je recommençais. Puis en juin 2020, j'ai finalisé la formation. Puis là, j'ai commencé à faire de la pub Facebook pour faire des webinaires, pour vendre ma formation. Première pub, je mets 2 000 $. J'ai 3 participants, il y en a 2 qui venaient du Congo. C'était n'importe quoi, mon affaire, là. J'ai cancellé le webinaire. Là, j'étais un peu découragé. J'avais tout filmé ça pendant des mois.
Ouais.
Puis là, c'est là que j'ai été mis en contact avec mon mentor qui m'aide encore aujourd'hui, qui m'a complètement enseigné comment propulser un business en ligne. Puis à l'intérieur de 2 ans, j'ai amené cette business-là. Puis tu sais, moi, je suis pas du genre à me vanter, puis à ceux qui me connaissent, là, mais juste pour donner un ordre d'idée, j'ai amené ma business dans les 7 chiffres annuels, partant de rien, là. De absolument rien,
Ben, en fait,
mais.
c'est pas de rien. T'es parti d'Éric Boisjoli. Tu es ton propre produit que tu
Ouais.
as développé, que tu as peaufiné, tu as ajusté certains trucs. T'sais, les dangers de ce type d'entreprise-là, c'est que si ça te tente pas une journée, ça te tente vraiment pas, puis là, tu parais un peu bizarroïde. Mais pour le reste, c'est une super de belle business, là. T'as que toi à vendre, tes idées, puis tes expériences, puis tes recherches.
Ouais, exact. Fait que ça a été. Puis ça fait 4 ans que je suis là-dedans. Puis écoute, c'est sûr qu'il y a eu des moments difficiles, mais comme je dis souvent aux gens que j'accompagne, jamais j'aurais pu avoir cette business-là si je n'avais pas fait le travail sur moi avant. Si j'avais été la personne complètement détruite en 2016, puis je m'étais dit je me lance là-dedans, j'aurais échoué lamentablement, c'est sûr. J'aurais répété le même pattern, en fait. Probablement que j'aurais eu un succès au début, mais j'aurais tout détruit. Là, j'ai vécu des périodes difficiles. Il y a des obstacles, puis c'est pas facile. Puis il y a une mer de coachs sur Facebook, puis tout le kit. Mais j'avais fait le travail avant, j'avais le mindset pour réussir. Je me tourne-sabote pas. Je suis conscient de mes patterns que j'ai encourus quand j'étais plus jeune. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça a complètement changé ma vie, là.
Oui, j'en doute pas, mais ça se voit, ça s'entend dans ta voix. Puis moi, j'ai la chance de te voir sur Zoom en même temps qu'on réalise l'entrevue. Puis on voit que tu tripes réellement. Puis je vais te faire part de mes préjugés, moi, Eric.
Ouais, vas-y.
Tu sais, j'étais dans les médias depuis plusieurs années. Puis à un moment donné, le phénomène des conférenciers est arrivé. Puis je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, moi, je rencontrais M. Chaput, que j'ai reçu en entrevue une couple de fois, un être tout à fait formidable que je voulais adopter comme grand-père. Mais m'a dit qu'il était déjà grand-père à ce moment-là, puis il n'y avait plus de place. Mais je voulais que ce soit mon grand-père. Et là, j'ai commencé à, OK, ben, je trouve ça intéressant, les conférenciers, puis on commence à apprendre et tout ça. Puis les bases des conférenciers, des fois, je trouvais ça un peu particulier parce que je me disais, mais t'es peu, là, tu sais, ce gars-là, y a-tu une multinationale? Tu sais, quelqu'un qui a une multinationale, il peut aider d'autres mondes à faire grimper d'autres multinationales et tout ça. Puis j'étais rempli de préjugés. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un athlète olympique. Un athlète olympique bien connu. Puis il m'a dit, ben Yann, moi, je fais affaire encore avec des coachs de vie. Là. Je fais affaire encore avec des psychologues sportifs. Là, j'étais là, t'as peu, les psychologues sportifs, c'est quand ça va mal, un psychologue, tu sais. Il dit, non, c'est quand ça va bien que tu prends un psychologue sportif. Parce que moi, ce gars-là, il m'a amené ailleurs, avec une autre vision que j'avais pas, il m'a donné des outils pour encore progresser puis aller chercher des médailles. Tu sais, ce gars-là, c'est Bruny Surin.
Ouais.
Bruny Surin, qui avait son psychologue sportif, qui est conférencier aujourd'hui, puis qui a encore besoin de gars comme toi puis de filles qui font le même métier pour les amener ailleurs à certains endroits pour s'améliorer. Mais je veux dire, Bruny Surin, c'est fucking Bruny Surin. Il a réussi dans la vie. Il est aux Olympiques, puis il a encore besoin d'un psychologue sportif. Il a encore besoin de faire des conférences, puis d'assister à des conférences. Puis on dirait qu'il m'a comme éveillé sur ça. Fait que j'ai fait une coupe d'affaires. J'ai été avec un de mes chums, Jean Nadeau, qui est conférencier aussi. J'ai été faire une retraite silencieuse pendant 3 jours. Fait que je me suis fermé la gueule pendant 3 jours. Les premières minutes, j'étais torturé parce que je me disais, je peux pas croire, m'a passé 3 jours ici. Finalement, j'ai été tout seul pendant 3 jours, Eric, et tout ce qui est ressorti, les idées qui sont ressorties de ce que je voulais faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, je disais, jamais que ça aurait popé si j'avais pas fait cette retraite-là de 3 jours, cette retraite silencieuse. Puis je pense que des fois, il faut aller explorer dans des endroits où on pensait pas explorer pour se former, puis se trouver. Puis quand Bruny Surin m'a amené ça, je me disais, OK, finalement, un conférencier, ça a peut-être un peu plus de bon sens que je pensais. Puis j'ai l'occasion de faire des belles rencontres comme j'en fais une ce soir avec toi. Éric, si tu me le permets, on va faire une très courte pause. On va revenir dans les prochaines secondes, les amis. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir de rencontrer Éric Boisjoli, qui est conférencier d'ordinaire à exceptionnel. Allez voir sa page web, ericboisjoliconférencier.com. Vous allez avoir tous les détails pour le suivre. Ce soir, on a le plaisir d'être avec Éric Boisjoli, conférencier. On en a appris un peu plus sur son parcours de vie, sur sa façon de voir les choses aujourd'hui, depuis qu'il s'est pris en main, depuis qu'il fait des conférences. Éric, il me reste encore une multitude de questions à te poser. Qui sont les gens qui font affaire avec les conférenciers en général? Est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde? Est-ce que c'est des professionnels? T'as-tu déjà eu des psychiatres, des psychologues là, qui sont dans la salle puis qui disent « Hey, Colin, Éric, ça va bien ses affaires? »
Ben en fait, moi je crois fermement que tout le monde devrait travailler sur eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que je note après avoir accompagné des milliers de personnes, les gens travaillent sur eux quand ils arrivent à un point de non-retour, quand ils sont dans la douleur, quand ils sont dans la souffrance. Puis ça, je trouve ça dommage parce que je me dis, pourquoi ne pas travailler sur toi quand ça va bien pour solidifier qui tu es? Parce qu'on a tous des choses à travailler. Mais puis j'ai fait le même pattern que ça. J'ai commencé à travailler sur moi quand j'avais atteint les bas-fonds. Mais on devrait toujours travailler sur soi. En fait, on s'entraîne, on mange bien, on dort. Donc, c'est toutes des choses qui sont santé, mais travailler son mental, il ne faut pas attendre qu'on atteigne un point de non-retour ou une douleur intense pour travailler sur soi. C'est un peu le message que j'aimerais lancer aujourd'hui aux gens. Travaillez sur votre mental avant. Parce que quand vous allez avoir un coup dur, vous allez être équipé. Comme une espèce d'assurance.
Ouais. Est-ce que ça peut être une peur chez certains d'aller voir un conférencier? Parce que, tu sais, j'ai certainement que dans mon enfance, ça n'a pas toujours été rose. Tu sais, y a-tu des endroits où on dirait que j'ai peur d'aller? Mettons, j'écoute l'entrevue avec Éric Boisjoli, puis là, je me dis, attends un peu, là, si je vais là, si je vais être obligé de me poser des questions par rapport à l'être que je suis présentement, les bons coups que je fais, mais aussi les mauvais coups, mes relations avec ma conjointe, relations avec mes enfants, relations avec mes amis, ça peut être confrontant en sacrifice, là, parce que il y a des bouts de notre vie, Eric, que on fait abstraction de ça parce que ça nous fait mal, mais en même temps, il faut y aller les explorer, ces bouts-là.
C'est ce qu'on appelle de l'évitement, de la fuite. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'aller en profondeur parce qu'ils ne veulent pas découvrir des choses douloureuses. Fait qu'ils restent en surface ou est-ce qu'ils vivent une vie médiocre, moyenne, alors que s'ils allaient en profondeur, comprendre un petit peu qui ils sont, ils pourraient tellement exploser dans leur vie, là. Mais il y a des gens qui sont pas prêts à faire ça, puis il faut respecter le cheminement de chacun, parce que tu m'aurais parlé de ça en 2010, alors que j'étais au top des représentants pharmaceutiques, je t'aurais même pas écouté, là. Fait que, tu sais, chacun a son cheminement, puis le moment où est-ce que c'est bon de travailler sur soi, là.
Oui, puis pour trouver sa voie aussi, là, tu sais, il y a des gens qui vont aller voir des conférenciers, qui vont prendre des coachs de vie uniquement parce que sont un peu dans la situation où toi tu étais quand tu as abandonné inconsciemment ton futur métier de joueur de baseball professionnel. À un moment donné, il y a un bout où tu ne sais pas trop quoi faire. Puis pourquoi rester dans la souffrance? T'sais, moi, j'aimerais mieux quand. Si un jour je souffre, comme vous avez peut-être pu souffrir par votre passé, je ne parle pas juste à toi, mais en général, ben, mon premier objectif, ce serait d'arrêter de souffrir. T'sais, le cerveau n'est pas fait pour souffrir indéfiniment, là. Alors, regardez le coach du Canadien, il est rendu blanc, 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 blanc. Son équipe n'arrête pas de perdre. Il était brun au début de l'année, mais il est rendu blanc, il souffre. Faut qu'il se fasse aider, ce gars-là.
Mais en fait, le cerveau humain, il n'est pas là pour te rendre heureux ou malheureux. Il est là pour te garder dans ce qu'il connaît, dans ce qui est confortable. Parce que le rôle premier du cerveau, c'est de te garder en vie. Et comment est-ce qu'il fait ça? C'est en te laissant dans ce qui est confortable. Donc, il y a des gens qui préfèrent être dans la douleur parce qu'ils connaissent c'est quoi, ils sont capables de dealer avec, que d'aller vers l'inconnu qui pourrait être le paradis. Mais le cerveau humain va te garder dans ce que tu connais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent dans des relations toxiques des années et des années, alors que s'ils se séparaient, probablement qu'ils rencontreraient une personne extraordinaire.
Ouais, puis les
Mais.
situations de dépendance aussi, tu sais,
Exact. Fait que
dépendance
c'est plus
affective.
facile. Exact. C'est plus facile de rester dans cette douleur-là que d'aller vers l'inconnu puis de ne pas savoir ce qui t'attend.
Parce que c'est une douleur qu'ils peuvent gérer.
Ils la connaissent. Ils la connaissent, la douleur. Ils savent c'est quoi, ils sont capables de dealer avec. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui souffrent tellement, puis c'est là qu'ils prennent une action pour changer. Mais sinon, il y en a qui restent dans des relations toxiques toute leur vie. Il y en a qui restent dans des emplois qui les éteignent pendant 40 ans parce qu'ils sont confortables dans cette zone de confort-là. Alors que si. Tu sais, ça prend une dose de courage aussi pour dire je vais changer ma vie, là. Je vais m'en aller vers quelque chose que je ne connais pas, puis je vais faire quelque chose de nouveau, puis je vais aller chercher mon plein potentiel, je vais aller explorer ce que je peux devenir. Ça prend du courage, puis ça prend de l'accompagnement parce que toute seule, c'est difficile d'y arriver.
Ouais, mais les dépendances, je vois ça un peu comme c'est parasitaire, tu sais. Quand on reste avec quelqu'un qu'on sait qui peut être toxique pour nous, mais que cette douleur-là qu'on ressent à chaque fois qu'on est à côté de cette personne-là, les manques qu'on ressent à chaque fois qu'on est à côté de cette personne-là, bon, on la gère, mais on a tellement peur du vide. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste, tu sais.
Exactement.
Dépendance financière. C'est cruel. Dépendance affective, ça peut être cruel. Puis de dire, hey, je vais être des mois sans rencontrer personne. À chaque soir, je vais rentrer chez nous. C'est moi, quand je me suis séparé, là, je me suis rendu compte que j'étais dépendant peut-être d'une présence dans la maison. Tu sais, la mère de mes gars, c'est la femme la plus exceptionnelle que j'ai rencontrée dans ma vie. Puis je suis bien content qu'elle soit la mère de mes garçons. Puis quand on s'est séparé pas parce qu'on s'aimait plus, on s'est séparé parce qu'on était rendu des amis, on n'était plus un couple. Mais j'avais pas pensé, moi, qu'une fois rendu en appartement, tout seul, sur mon divan, à regarder le plafond, que mes enfants qui me gossent bien souvent, qui me manquent, leur présence me manque, puis la présence de la mère de mes enfants aussi. Fait que ça a comme été un bout de dur à passer. Mais par la suite, j'ai été tout seul, célibataire. Je me suis comme reforgé en tant que personne, en tant qu'individu. Puis j'ai rencontré une superbe femme qui est tout aussi exceptionnelle, puis avec qui je me sens bien, puis avec qui je suis en amour. Tu sais, c'est de l'amour amoureux, là. C'est pas de l'amour fraternel que j'ai. Et ça, je veux dire, faut passer par un petit bout d'inconfort pour en arriver à quelque chose que tu dis, ah ben ça s'adapte mieux à mes besoins.
Exactement, mais c'est sortir de sa zone de confort. Mais le cerveau ne te laisse pas faire ça. Le cerveau est là pour te garder dans ce qui est familier, dans ce qui est confortable. Fait que c'est là que ça demande un peu plus de courage, d'aide, probablement. Mais effectivement, les gens préfèrent. T'sais, en fait, ils choisissent entre la douleur, ce qu'ils pensent qui va être le moins pire. Parce que le cerveau veut toujours t'éloigner de la douleur. Fait que, OK, si je reste dans cette relation-là, je sais c'est quoi, mais si je m'en vais toute seule, je vais souffrir encore plus. Qui sait qui je vais rencontrer? Peut-être que ça va être pire que ce que j'ai là. Donc, fait qu'il reste là-dedans.
C'est ça. La peur, ça fait faire des maudites niaiseries, on va se le dire. Puis, on se le rappelle pas assez souvent qu'on en a juste une vie, tu sais.
Ouais, tellement.
J'ai pas lu un livre. J'ai lu le résumé d'un livre. C'était une dame qui accompagnait les gens qui étaient en fin de vie.
Oui.
Elle leur demandait si c'était à refaire, ils feraient quoi? Puis bien souvent, ça n'a pas rapport avec le travail. Bien souvent, c'est de passer plus de temps avec nos enfants, passer plus de temps avec les amis, prendre plus prendre plus la conscience du moment présent là qui passe que ce qui est passé avant puis ce qui va se passer après. On le sait, oui. Simonac, on le sait, Eric, qu'il faut faire ça, mais on dirait que c'est en fin de vie qu'on s'en rend compte.
Exactement, mais c'est un excellent livre, justement. Là, c'est une infirmière en soins palliatifs. Puis justement, c'est les 5 plus grands regrets en fin de vie. Puis le plus grand regret, ce que ça disait dans le livre, c'est que les gens n'ont pas été capables de partir à la poursuite de leurs rêves. C'est ce qu'ils regrettent. Puis il est trop tard quand on a 80 et 85. Là.
Ouais.
C'est quand on est dans la fleur de l'âge, quand on est dans la quarantaine, puis qu'on est éteint parce qu'on fait let's go. Tu vas trouver les ressources pour aller où ce que tu veux aller. Mais il faut le faire. Puis c'est à ça que ça sert des bons coachs de vie, des bons programmes en ligne, des bons accompagnements. C'est à ça que ça sert, t'amener à un prochain niveau.
Oui, bien allons-y justement, parce que, bon, sur ton site web, ericboisjoliconférencier.com, on voit ça en gros titre, d'ordinaire à exceptionnel, cessez de tourner en rond et soyez sur votre X. C'est quoi ton angle d'approche avec les gens qui vont voir tes spectacles ou encore qui assistent à tes... qui vont voir tes conférences, excuse-moi, ou encore qui assistent à tes webinaires?
Mais en fait, c'est il y a comme un processus quand on veut changer réellement. Il faut aller guérir ces blessures d'enfance. C'est comme tantôt je parlais au niveau des patterns qu'on encourt dans l'enfance. Il faut être capable d'aller travailler là-dessus parce que je le dis souvent, quand tu construis une maison, tu ne fais pas le toit avant de faire la fondation. Fait que quand tu veux avoir un changement concret dans ta vie, il faut peut-être te solidifier au niveau de ta fondation. C'est quoi tes blessures? C'est quoi qui t'empêche d'avancer? C'est quoi tes croyances limitantes? Fait que nous, on travaille beaucoup, beaucoup avec l'intérieur au début. On accompagne beaucoup d'entrepreneurs aussi, puis je le dis souvent, ton entreprise va aller aussi loin que l'entrepreneur. Si l'entrepreneur n'est pas solide, il n'a pas confiance, puis il tourne en rond dans sa vie puis dans sa tête, l'entreprise ne se propulsera jamais. Fait que c'est pas sexy comme concept, mais il faut que tu apprennes à t'aimer, il faut que tu apprennes à pardonner les erreurs que tu as faites, pardonner aux gens qui t'ont fait mal, développer de la gratitude pour ce que tu as aujourd'hui. Puis c'est toutes des émotions que tu dois cultiver. Puis tu sais, tu m'aurais parlé de ça il y a 10 ans, 15 ans. J'aurais fait, hey, lâche-moi l'amour de soi, là. Donne-moi des trucs pour performer. Puis j'étais un performeur. Mais ça prend une dose d'humilité puis de dire, je vais aller travailler ces trucs-là. Je vais aller me solidifier en dedans. Puis c'est après que tu peux atteindre tous les objectifs que tu veux atteindre. Puis c'est comme ça qu'on travaille. On solidifie les gens à l'intérieur. Puis après, on les aide à créer une vision pour leur futur. On les aide à développer le mindset en fonction de cette vision-là. Puis d'aller chercher les objectifs, prendre des actions, surmonter tes peurs, garder de la motivation. Fait que c'est tout ça qu'on rebâtit de A à Z avec les gens.
Ah, puis devenir la meilleure version de toi-même. Mais,
exact.
Tu sais, je lis beaucoup sur la survie en forêt, quoi faire en situation d'urgence, ce genre de choses qui m'intéressent. Pour toi, je n'ai jamais été attaqué, mais je me dis, c'est un jour je suis attaqué, je vais être prêt, ou c'est un jour quelqu'un se noie proche de moi, je vais être prêt. Puis il y a quelque chose qui me marque à chaque fois, c'est sécurisez-vous en premier. Puis une fois que vous allez être sécurisé, vous allez être en mesure d'aider les autres. Ben, est-ce que tu me jases? C'est un peu ça. T'sais, en tant que propriétaire d'entreprise, si tu prends soin de toi, si tu es comblé, si tout ce que tu as, c'est que tu ressens de la gratitude et tout ça, ben, avec tes employés, tu vas être un meilleur employeur parce que tu vas être en dedans de toi, tu vas être mieux. T'sais, mais quelqu'un qui file pas, quelqu'un qui, depuis des années, qui est propriétaire d'une entreprise, puis que, bon, le lundi, il est de mauvaise humeur, le mardi, il est de bonne humeur, puis les employés sont tout le temps, hey, on sait pas trop comment le prendre. Cette entreprise-là ne sera jamais prospère. Tu peux jamais être plus fort que le maillon faible de ton entreprise. T'sais. Jamais, jamais.
Exact. Si mais c'est pour toi, ça qu'en avion, ils disent, mets ton masque en premier avant d'aider les autres, parce que si tu meurs, t'es pas plus avancé, là.
Mais même affaire, tu sais, t'es dans une chaloupe puis les deux gars, ils ont pas leur bouée de sauvetage, puis il y en a un qui tombe à l'eau, ben toi, assure-toi de mettre ta bouée de sauvetage, puis après ça, tu y pitcheras la bouée, puis tu sauteras avec, mais tu vas avoir ta bouée de sauvetage sur toi, là.
Exact. Puis c'est pareil dans toutes les sphères. T'sais. Si tu veux aider tes enfants, deviens la meilleure version de toi-même parce que tu pourras pas aider tes enfants si toi-même t'es tout croche, là. Fait que c'est tellement important. Puis les gens s'oublient. C'est ce que je vois le plus dans les gens que j'accompagne, c'est que les gens se sont oubliés avec le temps. Ils ont tout donné pour leur carrière, ils ont tout donné pour leur famille, ils ont tout donné pour leurs enfants. Puis là, ils se réveillent à 40, 45 ans, puis ils sont comme, je suis qui, moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? Les gens se sont complètement oubliés à travers toutes les années.
Ouais.
Là, ils se réveillent.
C'est le cas d'un entrepreneur prospère qui est un de mes amis puis qui est un aussi de mes collaborateurs. T'sais. Lui, il a super bien réussi. Il est multimillionnaire. Il est très jeune pour arrêter de travailler demain matin, mais il continue à travailler. Mais là, il se rend compte qu'il a besoin peut-être de d'autres choses. Mais là, l'entreprise, les employés se posent des questions. T'sais, voyons donc, il va-tu revenir à un moment donné? Ça fait 3 mois qu'il est en Europe, là, à faire le tour du monde. On aurait besoin de voir le propriétaire de l'entreprise. Ben ça, c'est, t'sais, je dis souvent, c'est parce que là, à un moment donné, tu n'as plus de vision là, pour ton entreprise. Là. T'sais, vends-les. Il dit, ben non, mais c'est mon bébé. Oui, mais vends-les, t'es plus là. T'es plus là, tu pourrais arrêter, tu pourrais vendre ça des millions puis continuer à voyager en Europe et tout ça. T'sais, je pense qu'il peut être un peu toxique pour ses employés parce qu'il n'est jamais là. T'sais, mais il se cherche à quelque part. À un moment donné, il va se trouver puis il va revenir. T'sais. Du moins, je lui souhaite. Mais de toujours avoir des objectifs puis de s'occuper de soi-même mentalement, physiquement, t'sais, ça ne sera jamais toxique de dire ça. Faut s'occuper
Non,
de
non,
soi-même
définitivement pas.
avant d'être capable de s'occuper des autres puis de s'occuper de son entreprise. Tu as quelques podcasts aussi de fait, donc on peut s'abonner à tes podcasts. On peut les écouter sur Spotify.
Oui, exactement. J'ai commencé mon podcast il y a 3-4 mois avec 15-20 épisodes, fait que
Ouais.
les gens peuvent aller vraiment voir ça.
Ça a été une belle rencontre, Eric, puis j'espère que dans les prochains mois, on aura l'occasion de faire une rencontre numéro 2 avec différents thèmes qu'on pourra aborder, puis
Yes.
on jasera de la vie en général, si ça peut aider les gens. Je suis pas mal persuadé que les auditeurs qui t'ont entendu dans les 60 dernières minutes ont été très satisfaits de ta rencontre. Ils vont me le dire, anyway, ces thèmes-là. D'habitude, ils communiquent avec moi assez rapidement sur Messenger. Éric Boisjoli, conférencier d'ordinaire à exceptionnel, je te souhaite de passer une belle soirée. Je répète ton site web, éricboisjoliconférencier.com, puis à une prochaine, mon ami.
Hey, merci beaucoup de l'invitation. Bye-bye.
Nous, on se laisse là-dessus. On se donne rendez-vous demain 11 h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci.